Seb, comment vas-tu?
Ça va très bien, Émile. Car on part en road trip et on amène notre cabaret des curiosités du web dans plusieurs villes du Québec au cours des prochains mois. Dans ces shows live, on explore de drôles d'histoires qui parfois nous font rire et parfois nous terrorisent. Les histoires changent à chaque show.
Le tout débute à Gatineau le 27 avril dans le cadre du Festival Transistor. Après, on se retrouve à Shawinigan le 13 juin au Wabasso avec nos amis de Côté Sombre. Et le 11 juillet, on se retrouve à Longueuil dans le cadre du Comic Fest à la salle Fanplast. Les billets sont en vente pour tous ces shows-là et d'autres dates risquent de s'ajouter sous peu, donc restez à l'affût.
Rendez-vous au distorsionpodcast.com pour connaître toutes nos dates et vous procurer des billets. Si vous souhaitez que Distorsion passe faire un tour dans votre région, écrivez-nous. On a vraiment hâte d'aller à votre rencontre.
De retour à votre programme principal.
Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur...
She was 32 years old and pregnant with her first child when stabbed to death in her home just before Christmas. Police have released these CCTV pictures of the suspect on the night of Natalie's murder. They've lost their daughter and all they have left is the hope of justice.
Des histoires étranges de l'ère numérique.
Décembre 2022, l'atmosphère festive de Noël enveloppe Silverwood Estate en Irlande du Nord, mais elle est brutalement dissipée avec la découverte macabre du corps de Natalie McNally, 32 ans et enceinte de 15 semaines.
Rapidement, les enquêteurs procèdent à l'arrestation de plusieurs suspects, dont son ex-conjoint, Stephen McCullough, qui semble pourtant avoir un alibi en béton, il était en direct sur YouTube.
Au fur et à mesure que des indices voient le jour, d'intenses efforts sont déployés, incluant des milliers d'heures de visionnement de vidéosurveillance.
Accompagnez-nous à travers cette saga tragique où chaque révélation nous mène plus près de l'imaginable vérité.
Sébastien Lévesque, comment vas-tu ce soir?
Ça va très bien, toi, Émile Gauthier.
Ça va très bien. On a tout un automne. Non seulement on a fait un live au Festipod, oui, mais on a d'autres prestations live aussi qui s'en viennent, oui, pour rencontrer le public. Donc, c'est cool. On se sent en post-pandémie, justement. Je ne dirais pas trop fort parce que je sais qu'il y a encore des cas de COVID, mais on sent que, justement, les activités live reprennent.
Oui,
nous, on a plein d'autres projets. Vous allez voir, on a un projet, je ne sais pas, au moment où l'épisode va être diffusé, à quel point ça va être révélé, mais on a un projet assez trippant avec Ron, vous savez, notre super ami illustrateur qui a illustré nos deux livres, donc on a un projet imminent qui va voir le jour avec lui, donc on est très excités.
Oh, oui.
Il y a plein de choses comme ça qui se passent, là. Donc merci les Distordus d'être toujours au rendez-vous. Puis qu'est-ce qu'on boit, Seb, ce soir?
Oh, ce soir, on boit une bière que j'ai jamais bu et que le nom me fait très sourire. C'est la Fuck de Système, mais Fuck écrit comme l'animal, le fuck. Et sur la canette, on voit évidemment un fuck. Et c'est une microbrasserie de Lachute, c'est Sir John. Sans grande surprise, c'est une IPA, 6,8% d'alcool avec différents houblons. Donc, je vais même lui goûter live à l'instant.
Oui, elle a une texture très laiteuse. Elle n'est pas du tout désagréable.
Oui, exact. Ah oui, elle est délicieuse. Donc, on ne peut pas ne pas remercier Jeanne Stevenin de France qui nous offre cette bière lors de la tournée de bière. Donc, merci à toi.
On a aussi un shout-out à donner à Keto Valero, en fait, qui nous a écrit un beau courriel. Il nous dit « Bonjour Émile et Seb, avant tout un grand merci pour votre incroyable travail qui m'accompagne dans mes longues heures de labeur devant ma tablette graphique. Je suis auteur de bande dessinée. Quel plaisir de vous écouter à chaque épisode. Vous êtes un peu comme des grands frères. Oh. » Et c'est signé un distordu de Corée du Sud.
Wow.
Donc, c'est la première fois qu'on a un shout-out en Corée du Sud. Donc, shout-out à vous, guys. S'il y en a d'autres parmi vous, manifestez-vous. Vous savez que vous pouvez aussi obtenir nos épisodes en avance et nos after-shows avec Patreon. Si vous vous abonnez, on a deux forfaits. Avec le forfait distordu, vous avez tous les épisodes en avance, oui, sans pub. Avec le forfait oui, monsieur, c'est là que vous avez accès à tout le contenu bonus. Mm-hmm. Et on fait un after show après chaque épisode. Et aujourd'hui, en fait, on fait un lien. Hein. Vous savez, on a de la suite dans les idées.
On essaie.
Seb va nous parler du premier meurtre filmé en direct sur le web. Donc, un incident qui est survenu, quoi, en 2017?
2017, oui, exact.
Donc, une histoire assez choquante parce qu'aujourd'hui, justement, on va vous parler d'une histoire survenue l'an dernier, en fait, en 2022. Mm-hmm. Une histoire tragique. On met un petit trigger warning aussi,
oui,
parce
même.
Que on va décrire des scènes assez difficiles. L'histoire de Stephen McCullough, ça... comment dire, choquer planète Internet.
Ah, oui, vraiment.
L'an passé, vous allez voir, on va rentrer un petit peu plus dans les détails, mais ça nous fait se poser plein de questions au sujet des diffusions live,
ouais,
sur les réseaux sociaux. De un, est-ce que ces diffusions-là sont toujours vraiment live? Mais en plus, il se passe de plus en plus de trucs weird en lien avec ça.
Oui. Ben, ça devient une porte d'entrée, une caméra ouverte sur le monde, en fait, que les gens peuvent utiliser à bon escient et filmer à peu près ce qu'ils veulent, parce que le temps réel, le temps que la modération embarque, il y a toujours un délai. Donc, il y a comme une marge de manœuvre, une marge d'erreur, en fait, mm-hmm, qu'on n'est pas capable d'éliminer, on dirait, avec les lives, du moins avec les outils actuels.
Oui, puis c'est une, comment dire, les plateformes qui offrent des lives, c'est plus difficile à modérer. C'est plus difficile, même, oui, avec l'intelligence artificielle, de flaguer cette information-là, étant donné qu'elle est en direct. Donc,
oui,
j'ose croire que ça va s'améliorer avec, avec le temps. Puis malheureusement, c'est en raison d'incidents comme ça qu'il risque d'avoir peut-être du progrès à ce niveau-là.
Oui. C'est, évidemment, les plateformes, plus il va y avoir d'incidents, plus les plateformes vont investir des ressources pour développer ces outils-là. Mais comme tu dis, imagine le traitement en temps réel. Il faut qu'ils analysent tout, les images et tout ça. Ça demande quand même beaucoup de capacité. Déjà qu'un live, ça demande beaucoup de capacité, hein, on le sait, aux ordinateurs, à Internet, etc. Donc, j'espère qu'un jour, on y arrivera. Mais honnêtement, j'ai l'impression qu'il va toujours avoir, comme je te dis, une marge d'erreur.
Yes. Donc aujourd'hui, on se plonge un peu dans ce monde-là, dans une histoire tragique, en fait, qui nous a été recommandée encore une fois très souvent par vous, nos chers auditeurs et auditrices. Il risque de peut-être même avoir des développements, quoique c'est une histoire qui semble assez bouclée, quoi.
En fait, les canets, mais le procès n'a toujours pas lieu. Il va avoir lieu, puis vous allez voir, là, les dates ont tout le temps changé. Mais là, pour le moment, c'est 2024, mais avec toutes les preuves établies, je pense pas qu'il y ait de changement de cap majeur.
Exact. Alors, Seb, est-ce qu'on est prêt à se plonger dans l'histoire choquante de Stephen McCullough?
Oui, mais avant de nous lancer, Émile, dans le sujet d'aujourd'hui, il est important de mentionner notre partenaire NordVPN qui sponsorise l'épisode d'aujourd'hui. Dans une ère où la vie numérique est omniprésente, on le sait, hein, la protection de nos données en ligne n'a jamais été aussi cruciale qu'aujourd'hui. NordVPN est là pour nous aider à naviguer en toute sécurité, aussi en préservant la confidentialité de nos échanges numériques, ce qui est très important.
Totalement d'accord, Seb. Avec toutes les menaces en ligne, il est plus important que jamais de protéger sa vie privée et ses informations personnelles. NordVPN vous permet de naviguer sur Internet en toute sécurité, en masquant votre adresse IP et en cryptant vos données. Mais surtout, un autre aspect là, très pratique de NordVPN que moi j'aime bien, Seb,
oui,
c'est quand on fait des réservations pour des voyages en dehors de son pays. Sachez qu'en vous connectant sur les pays que vous prévoyez visiter, vos pays de destination, ben vous pouvez économiser gros. C'est des centaines de dollars que vous pouvez sauver en location de voitures, d'hôtels et autres accommodations. Donc, ça en vaut vraiment la peine. Ça peut devenir un outil de voyage quand même assez important. Sans oublier que NordVPN encourage les podcasts de partout dans le monde depuis plusieurs années déjà.
Oui, vraiment. On les remercie pour ça. Puis c'est vrai ce que tu dis. Moi, je pense que dans ma prochaine destination, je vais l'intégrer dans mon magasinage de voyage, en fait, ce que je ne faisais pas avant nécessairement. Mais depuis qu'ils ont sorti cette astuce-là, c'est sûr que je vais l'intégrer. Et bonne nouvelle pour vous, les distordus, on a une offre spéciale. En utilisant notre lien nordvpn.com/distorsionvpn, vous obtiendrez une réduction substantielle sur votre abonnement, plus 4 mois gratuits en bonus. Et rappelez-vous, il y a une garantie de remboursement de 30 jours, donc ça vaut vraiment la peine de l'essayer. Et si ça ne vous plaît pas, ben vous vous faites rembourser.
Exactement. Donc Seb, sommes-nous prêts à se plonger dans l'épisode d'aujourd'hui?
Oui, madame!
C'est parti!
Maintenant, nous sommes une semaine avant Noël, le 18 décembre 2022. L'ambiance des fêtes est palpable à Silverwood Estate, un charmant village de Lurgan, dans le comté de Armagh, en Irlande du Nord. Connu pour ses demeures modernes et contemporaines, ce village d'environ 29 000 habitants tire son nom des bosquets d'arbres argentés typiques de la région. Les portes des maisons sont ornées de couronnes de houx et les sapins brillent de mille feux avec leurs boules et guirlandes. Chaque année en juillet, Silverwood vibre au rythme de son festival de musique folklorique, attirant des milliers de visiteurs de partout dans le monde. Mais en cette période de l'année, c'est la magie de Noël qui prend le dessus. Les rues résonnent des chants traditionnels irlandais interprétés par des musiciens locaux. Les conversations entre adultes et enfants sont animées, évoquant les traditions du Petit Noël et les cadeaux à offrir. Les pubs, plus animés que jamais, accueille les habitants venus se réchauffer avec une pinte de Guinness ou un vin chaud, tout en discutant des préparatifs des fêtes et en regardant des matchs de hurling. Pour info, le hurling, c'est un sport que je ne connaissais pas. Je ne sais pas si tu connaissais ça, Émile. C'est un sport collectif d'origine irlandaise qui se joue à l'extérieur avec une crosse et une balle. Et c'est considéré comme le sport d'équipe le plus rapide et le plus ancien d'Europe. Ça ressemble un peu à la crosse, en fait, de ce que j'ai pu voir sur Internet.
Eh bien, on en apprend. C'est quoi l'autre sport qu'on avait? Ah oui, le pickleball.
Oui, pickleball. Ben oui.
Puis on s'est fait remettre à notre place. On avait l'air de deux ignares de ne pas savoir c'est quoi le pickleball. Puis on dirait, depuis qu'on en a parlé, j'ai vu plein d'extraits sur YouTube et sur le web de ça. C'est genre, OK, bon, pardonnez notre ignorance.
Oui, j'ai une amie, elle me dit, moi, je joue aux deux semaines depuis des années. C'est même pas ça.
Tout le monde va nous dire, je joue dans une ligue de hurling.
Oui, c'est ça, à tous nos fans irlandais. Ce soir-là, Nathalie McNally, 32 ans et enceinte de 15 semaines, regarde un match de la Coupe du monde de football européen avec ses parents, Bernadette et Noël McNally, dans leur maison accueillante. Elle a la chance d'avoir une famille aimante, incluant ses trois frères, Brendan, Niall et Declan. Ayant récemment découvert sa grossesse, Nathalie prévoit d'annoncer la nouvelle à toute la famille élargie, le jour de Noël. Sa famille proche est déjà ravie. L'excitation et l'enthousiasme qu'elle ressent à l'idée de devenir mère illuminent son visage, reflétant son bonheur intérieur. Ses yeux pétillent à chaque rire partagé, à chaque discussion sur l'avenir, la rendant rayonnante au milieu de sa famille qui la soutient dans cette nouvelle aventure qui se profile à l'horizon. Bien que le père ne semble pas être présent, elle est au sommet de son bonheur, impatiente d'accueillir son enfant. Une fois la partie de football terminée, Nathalie embrasse chaleureusement ses parents et quitte leur domicile aux environs de 19h30. Elle prend place derrière le volant de sa Ford Fiesta bleue, qui l'accompagne dans ses déplacements quotidiens. La distance entre la maison de ses parents et son domicile à Silverwood Green est d'environ 2 km, un trajet qu'elle connaît par cœur évidemment et qu'elle parcourt habituellement en quelques minutes seulement. En chemin, son téléphone sonne. C'est un ami qui l'appelle. Elle décroche sans se douter que cet appel va changer le cours de sa vie. Nous y reviendrons plus tard.
C'est intriguant tout ça.
Oui.
Nous sommes maintenant, Seb, le 19 décembre, donc le jour suivant. Stephen McCullough, qui est l'ex-petit ami, l'ex-conjoint de Nathalie, y arrive chez elle vers 22 heures pour lui rendre visite et discuter. Leur relation avait pris fin quelques mois plus tôt, après que Nathalie lui ait annoncé sa grossesse en octobre. Ils s'étaient rencontrés via la chaîne YouTube de Stephen. Parce que oui, il a une chaîne YouTube. Stephen, âgé de 33 ans et résident à Kilwilkie Estate à Lurgan, est largement reconnu sous son pseudonyme VoteSaxon07 sur YouTube. Avec une audience de près de 37 000 abonnés quand même, ouais. Sa chaîne se focalise sur les jeux vidéo, mais il s'est surtout fait un nom grâce à ses critiques de jouets et répliques. Donc, il fait des reviews de oui, figurines, exact, de jouets divers.
Oui, puis de films et tout ça. Il compare, il est très critique quand même. Il aime beaucoup celles qui sont mieux faites et tout ça. Ceux qui sont mieux, comment dire, dès qu'ils ressemblent le plus près possible des personnages et tout ça. Donc, c'est vraiment bâti une audience là-dessus, oui.
C'est quelqu'un qui est très centré un peu sur l'univers geek.
Oui, là, très, très, oui.
En général, là. Né le 17 février 1990, il a débuté sa chaîne VoteSaxon07 en 2010. Membre du site d'actualité geek Following the Nerd et de Robot Wars Team S-Tech, aux côtés de Anthony Murney et du capitaine Shane Swan, il fait aussi des avis sur Doctor Who, oui, qui lui valent une grande notoriété. Effectivement, le nom de sa chaîne fait référence à Harold Saxon, alias le maître, ennemi juré du Docteur dans la série Doctor Who. Mais moi, je suis pas du tout connaisseur de cette série-là.
C'est ce que j'allais te demander, parce que moi non plus, puis je connais plusieurs personnes, encore une fois, qui sont bien, bien fans, mais moi, j'ai jamais accroché dans cet univers-là, puis je me demandais si c'était le cas de toi.
Non, en fait, mais je sais que, me semble qu'il y a... J'ai entendu des bons commentaires sur cette série-là, puis il y a un fandom très développé. Là, oui. Il y a vraiment des geeks là, de Doctor Who qui connaissent absolument tout.
Oui, absolument.
Le maître, en fait, Harold Saxon, dans la série, il a notamment utilisé le slogan « Vote Saxon »,« Votez Saxon », lorsqu'il se présenta comme premier ministre dans la troisième saison. Stephen, fervent fan de la série, a adopté ce pseudonyme en hommage à ce personnage emblématique, donc « Vote Saxon ouais. 07 ». Ses vidéos s'articulent principalement autour de Doctor Who et des univers de science-fiction en général. Un clin d'œil récurrent dans ses contenus est une plaisanterie sur sa prétendue consommation de cocaïne.
Ouais.
Quand on lui demande pourquoi il a commencé ses critiques, Stephen pointe un manque de précision dans les vidéos de l'époque et sur certains détails des jouets dont il fait la review, là, puis ça l'intriguait. Donc, c'est pour ça qu'il a souhaité fonder sa chaîne pour être un peu complémentaire, pour faire mieux. Puis c'est un monde, le monde des reviews de jouets sur YouTube, oui. C'est tout un rabbit hole aussi. Là.
Ah, tellement, hein? oui, t'as raison. J'en croise des fois beaucoup par des recherches. Puis il y a un gros univers, beaucoup plus grand que je pourrais imaginer.
Puis ce qui est fou de ça, c'est que en fait, les compagnies de jouets sont embarquées à fond dans ce nouveau média-là. Oui, donc ça devient une plateforme pour eux. Ils envoient des tonnes de jouets à ces reviewers qui sont vus par des mineurs et des jeunes qui ont pas de carte de crédit pour acheter, mais qui par la suite vont achaler leurs parents pour les acheter. Donc ça fait partie de l'écosystème de vente, de commercialisation des jouets. Là,
oui, surtout que la législation par rapport aux publicités aux enfants sur le web, c'est une fine ligne grise qui est facile à transgresser. Là,
oui, puis même à la télé, tu sais, à notre exactement. Époque, nous, quand on était jeunes, on écoutait la télé le matin, on se faisait bombarder des annonces de G.I. Joe, puis de Little Pony.
Je me rappelle des pistes de course. Là, qu'on,
oui, exact.
Tu crinquais ta voiture. Là,
des jouets de Star Wars, puis de mille et un trucs. Donc maintenant, c'est un peu remplacé par ça, par les chaînes qui font du unboxing, puis de la critique de jouets. Là. On revient un peu à notre histoire. Donc, Stephen est débarqué chez Nathalie ce soir-là, là, aux alentours de 22 heures, en fait. À son arrivée chez Nathalie, il remarque avec surprise que la porte d'entrée est entrouverte. Intrigué, il pénètre dans la demeure et tombe sur le corps inanimé de Nathalie dans le salon. Elle est en piteux état. Sans tarder, il contacte les services d'urgence, mais il est déjà trop tard pour elle, malheureusement. Pendant ce temps, la mère de Nathalie tente vainement de la joindre à plusieurs reprises depuis le début de la journée. Inquiète, elle se rassure en se disant que sa fille est peut-être simplement occupée ou fatiguée en raison de sa grossesse, oui. Tout simplement. Dès l'arrivée des forces de l'ordre, la mort violente et suspecte de Nathalie est immédiatement constatée. Les détails sont maigres, mais on apprend rapidement qu'un homme de 32 ans est arrêté le soir même en lien avec le meurtre de Nathalie pour être subitement relâché le lendemain, ouais. Ne figurant plus parmi les suspects. Un second suspect est interpellé le 21 décembre, soit 2 jours après la découverte, et libéré sous caution, bien qu'il soit disculpé quelques semaines plus tard.
Puis ça, pour vrai, là, il y a aucun détail sur les noms de ces suspects-là, nulle part. C'est pour ça qu'on mentionne que les détails sont maigres. C'est que les policiers ont été très, très, très discrets sur ces arrestations-là au niveau journalistique. Je ne sais pas pourquoi, là, mais tant qu'il n'y a pas d'accusation, je pense, formelle, j'ai l'impression qu'ils font peut-être attention à ça, étant donné que ça n'a pas été plus loin. Mais bref, tout ça pour dire qu'il n'y a aucun nom de disponible sur ces suspects-là.
Puis on ne sait pas non plus qu'est-ce qui les liait à cette histoire-là.
Non, aucunement.
Ce n'était pas des connaissances de Nathalie.
On n'a rien sur le circonstanciel. Puis ça me surpris, mais encore une fois, je pense que c'est une question d'enquête en tant que telle. Mais non, il n'y a jamais eu aucun détail que ce qu'on mentionne actuellement.
Cependant, dans des circonstances comme ça, souvent c'est le conjoint ou l'ex-conjoint qui est souvent pointé du doigt là, comme premier suspect.
Oui.
Ainsi, Stephen est conduit au poste pour un interrogatoire concernant le meurtre présumé de son ex-partenaire qui est enceinte là, de 15 semaines. Toutefois, Stephen, lorsqu'il est interrogé, il présente un alibi qui est très solide. Mm. Il déclare que ce soir-là, en fait, il a participé à une diffusion en direct sur YouTube durant 6 heures la nuit du drame. Donc, il était chez lui, ouais. dans sa maison, puis il était en train de streamer en direct. Ce qui est quand même un alibi assez solide.
Oui.
Et suite à son interrogatoire, les policiers vérifient quelques jours plus tard l'alibi de McCullough et découvrent effectivement la longue vidéo qui est archivée en fait sur sa chaîne YouTube. Oui. Donc tout semble avoir été diffusé en direct, comme le prétend Stephen, ce qui le disculpe dans le cadre de l'enquête policière le 24 décembre, donc la veille de Noël.
Oui.
Donc ce soir-là, il est disculpé, en fait, il est comme un peu, clairé, oui. de la liste des suspects.
Exact.
Et là, les enquêteurs doivent se concentrer sur d'autres pistes. Mm. Et l'enquête, donc, autour de l'agression tragique de Nathalie continue de se dérouler. Même si on est la veille de Noël, on sait que les effectifs souvent sont réduits, tout ça. Les questions concernant l'identité et les motivations de son agresseur demeurent sans réponse claire. Cependant, un détail crucial émerge du travail d'investigation. Il est évident que Nathalie connaissait son agresseur. Les preuves révèlent une relation préexistante entre eux, ce qui explique probablement pourquoi elle l'a invité chez elle sans hésitation. Donc, c'est un peu ça que Seb, dans le fond, qui est le détail crucial, c'est ce qui leur fait croire que c'est, oui. quelqu'un qu'elle connaissait.
Oui, exact. Mais étant donné qu'il n'y a pas eu de traces d'infraction, quand ils sont arrivés, la porte, c'est sûr, même quand Stephen est arrivé, la porte était déjà ouverte, donc pas de traces d'infraction. Je te dirai pas d'autres détails pour pas spoiler, mais il y a d'autres éléments qui font en sorte que justement l'avoir retrouvé dans le salon et tout ça, elle a une caméra de surveillance aussi, on va reparler, là, qui démontre l'entrée, mm-hmm. de la personne qui a elle a ouvert la porte en toute confiance.
OK. N'allons pas plus loin, là, vu que ça s'en vient. Mais oui, en fait, est-ce qu'on en sait plus sur cette Nathalie McNally, Seb?
Oui, Nathalie McNally est née le 12 avril 91 à Lurgan, dans le comté de Armagh. Elle est la fille de Noël et Bernie McNally et la sœur de Brandon, Niall et Declan, comme on vous a parlé un peu plus tôt. Elle a grandi dans le paisible quartier de Silverwood Estate. Elle n'a jamais vraiment déménagé, en fait, de ce coin-là, fréquentant l'école primaire St. Francis, puis le collège St. Michael. Elle est passionnée par les études et le sport dès son jeune âge. Elle poursuit un parcours académique brillant qui l'amène à l'obtention, d'un diplôme en droit de l'Université d'Ulster, suivi d'une maîtrise en marketing et affaires à l'Université Queen's de Belfast. Donc, c'est vraiment une studieuse là, qui réussissait bien à l'école. Reconnu pour sa force de caractère et aussi son indépendance farouche, Nathalie milite avec ardeur pour les droits et l'égalité des femmes. Son engagement se reflète également dans son parcours professionnel, elle qui a travaillé plusieurs années pour TransLink, qui est la compagnie de transport public d'Irlande du Nord. C'est un peu notre STM à Montréal. Fervente supportrice du club de football de Liverpool, là, c'est vraiment une fan. Nathalie chérit les moments passés à regarder les matchs en compagnie de ses parents et de ses frères. Son amour pour le sport s'étend également au yoga, à la course à pied et au cyclisme. C'est des activités qu'elle pratiquait avec enthousiasme. Animée par un esprit d'aventure, elle aimait voyager et s'immerger dans des nouvelles cultures, ce qui lui permettait vraiment d'enrichir son expérience de vie. Mais malheureusement, sa vie a pris fin beaucoup trop tôt, à 32 ans, quand elle avait vraiment le vent dans les voiles. Comme je le disais, le père ne voulait pas trop s'impliquer. Pour elle, c'était pas grave. Elle avait un bon emploi, elle avait une maison, des parents et tout ça. Même dans les témoignages, sa famille disait qu'elle n'a jamais été aussi heureuse de sa vie. Mm-hmm. En fait. Donc, je trouve que ça rend encore la chose encore plus triste.
Oui, elle était un bon endroit dans sa vie, oui, dans son évolution.
Sur son X, là, je ne sais pas si ça peut être exactement là-dessus, là, mais bref, elle était bien. On retourne à notre histoire. Nous revoici au 21 décembre. L'enquête avance à grands pas. La police fait une déclaration publique révélant des détails sur l'attaque brutale subie par Nathalie. L'incident a été qualifié de violente agression au cours de laquelle Nathalie a reçu plusieurs coups de couteau dont certains étaient manifestement défensifs. Désormais, la mort de Nathalie est officiellement qualifiée de meurtre. Selon les informations partagées, l'attaque était d'une brutalité effroyable. Nathalie ayant été sauvagement battue, étranglée et poignardée. L'arme du crime est soupçonnée d'être un couteau provenant de sa propre maison, ajoutant une couche de véracité aux horribles détails de l'agression.
Ça, c'est étrange parce que l'arme était chez Nathalie. Donc, est-ce que la personne qui venait la visiter prévoyait de l'assassiner, en fait, ou non? Parce que sinon, elle aurait amené une arme avec
une
elle.
Une arme,
tu sais,
oui, effectivement, c'est une bonne question.
C'est rare que tu... Ben, c'est rare. J'ai jamais assassiné personne, mais j'imagine difficilement quelqu'un qui veut faire un meurtre prémédité se pointer chez quelqu'un et dire « Ah, ben, je vais utiliser une arme dans la maison de la victime. »
Oui, oui, effectivement. À moins qu'il ait anticipé ça pour... c'est une bonne question, en fait.
Ça concorde un peu ce que tu disais tantôt. Ça semble être le cas de quelqu'un qui est arrivé dans son appartement, qu'elle connaissait... Puis ça a peut-être commencé par une discussion, en fait.
Oui, exact.
Qui s'est enflammée.
Mm-hmm. En outre, le père de Nathalie a partagé des témoignages déchirants sur le drame, indiquant que sa fille avait été battue, frappée à la tête, étranglée et poignardée à mort dans une attaque frénétique. Malgré les préparations du personnel de la morgue avant l'identification du corps de sa fille, l'impact émotionnel a été si fort que le père était toujours sous le choc lorsqu'il a vu l'état dans lequel se trouvait le corps de Nathalie.
Ah, j'ose pas imaginer.
Ah, j'arrêtais pas de penser à ça. Je me disais, si c'était ma fille, ça doit... Tu sais, de voir ton enfant mort, c'est une chose, mais de le voir mort, battu comme ça, là, ça ajoute une couche de tristesse. Puis je sais même pas comment tu fais pour t'en remettre de ça. Là. Tu dois te déchirer. Là. C'est incroyable. Pauvre monsieur. Puis, pauvre sa mère, sa famille. C'est fou. Là. La police a également confirmé que Nathalie était enceinte de 15 semaines d'un garçon qui a depuis été nommé Dean par sa famille brisée. Également, l'association caritative Crime Stopper, hein, qu'on vous parle souvent, offre une récompense de 20 000 livres pour toute information concernant le meurtre de Nathalie. Le lendemain, le 22 décembre, dans l'après-midi, les autorités partagent des images de vidéos de surveillance de la soirée du 18 décembre. À 20h52, on y voit un homme portant un sac à dos arrivant dans la rue de Nathalie, à Silverwood Green. Puis à 21h30, donc à peu près 40 minutes plus tard, la vidéo de surveillance capture le même homme quittant Silverwood Green. Malgré quelques pistes prometteuses, les enquêteurs continuent de chercher des indices supplémentaires afin d'identifier un suspect. mais des centaines d'enquêtes de porte à porte ont été menées. Et plus à ce moment-là, là, il y a eu plus de 3000 heures d'images de vidéosurveillance qui ont été saisies. Donc, pour essayer de créer une chronologie, oui. ou du moins détecter un suspect comme ils l'ont fait là, actuellement.
Ah, c'est tout un travail de moine d'analyser Incroyable. Ça. Puis, si c'était mon travail à moi, je me dirais, mon Dieu, je me sentirais mal si je laissais passer oui. quelque oui. chose, un suspect. Ou, ça reste des humains. Hein,
qui, raison, oui.
Même
oui.
avec l'aide de l'AI, on oui. peut... Ils font des corrélations et tout ça, mais ça demeure quand même une aiguille dans une botte de
oui,
foin.
Oui, oui, absolument. Je pensais justement au travail des policiers, comment que tu dois rester tout le temps concentré. Tu ne peux pas te permettre, comme tu dis, un peu l'erreur dans un contexte comme ça.
De son côté, Stephen, que la famille de Nathalie connaît à peine, mais identifié comme le père du bébé qu'elle portait, il est invité chez eux pour partager leur chagrin. La relation entre Nathalie et Stephen avait débuté en août 2022. Avant le décès de Nathalie, Stephen n'avait pas eu de contact approfondi avec la famille McNally, ne les ayant rencontrés qu'à deux occasions avant l'incident tragique. Rendu le soir de Noël, par une délicate attention, les parents de Nathalie permettent à Stephen de passer 20 minutes seul auprès de son corps. Mais comment? Il avait accès au corps ou ils lui ont permis d'aller à la morgue?
D'après moi, c'est ça. Mais étant donné qu'il n'était pas un membre officiel de la famille, j'ai l'impression qu'il devait avoir l'autorisation de la famille. Mais j'ai creusé ça. Mmh. J'ai pas de détails, mais c'est vraiment ce qu'ils leur ont permis de faire. Parce que étant donné que, on va en parler, mais que les funérailles ont été comme le lendemain de Noël, j'ai l'impression que peut-être que même au salon funéraire ou tout ça, elle était peut-être déjà préparée ou du moins sur le bord mm-hmm. de l'aide. Donc, ils ont peut-être pu trouver un terrain d'entente.
Ah, possible, là. Oui. Ah, ça devait être, au salon funéraire.
Ouais,
parce que là,
selon moi, là, oui.
Le 26 décembre, la famille et les amis de Nathalie se rassemblent pour les funérailles près de sa maison familiale à Craighaven. Elle a une cérémonie humaniste chez ses parents. Plusieurs centaines de membres du public se rassemblent également pour voir son cercueil, montrant ainsi leur soutien à la famille. Son frère prend la parole, exprime son chagrin et appelle à la fin de la violence envers les femmes et les filles. Le 3 janvier, donc on vient de sauter d'une année, on oui. est en 2023, une veillée en l'honneur de Nathalie est organisée à Lurgan, marquée par un lâcher de ballons roses et bleus. Sa famille la décrit comme un ange absolu. Son frère Will exprime le réconfort trouvé dans les messages de soutien reçus. Il vante la disponibilité constante de Nathalie, son amour pour sa famille et ses animaux, et admire son engagement en faveur des droits LGBTQ+, et des femmes, la qualifiant d'ange et de sœur idéale.
Oui, ils ont été tellement présents, sa famille, dans les réseaux sociaux. Puis là, on n'en parle pas beaucoup parce qu'il fallait faire certains choix, mais il y avait plein de hashtags là, qui existaient, là, Justice oui. for Nathalie. Il était très, très présent. Il donnait des conférences, des entrevues pour, consolider la communauté pour tenter de trouver le suspect. Là. Non, ils ont vraiment été impliqués. C'est vraiment une chouette famille, honnêtement. Là. C'est beau à voir, si je peux dire ça. Dans
cette
le
forme de ouais. solidarité-là, ouais, dans le deuil. Mm. L'enquête progresse nettement le 5 janvier 2023 avec l'annonce policière de la découverte de l'arme du crime, en fait un couteau de cuisine, dans la résidence de Nathalie, conformément à l'hypothèse initiale, apportant ainsi un élément concret à l'enquête en cours. Les autorités réaffirment qu'elles connaissaient son agresseur dans ce cas-ci. Le lendemain, le vendredi 6 janvier, les efforts se poursuivent avec des fouilles méthodiques effectuées dans l'enceinte du Silverwood Golf Club à Lurgan, situé près de chez Nathalie, dans l'espoir de découvrir des éléments pouvant éclairer davantage sur les circonstances du crime. Le dimanche 8 janvier maintenant, la police, toujours déterminée à résoudre ce crime odieux, retourne sur les lieux du meurtre à Lurgan 3 semaines après la tragédie pour une réévaluation minutieuse de la scène, cherchant les détails qui auraient pu être omis lors des premières investigations. Thank you.
poursuit et nous sommes maintenant le vendredi 13 janvier 2023. L'enquête sur le meurtre de Nathalie connaît des développements importants. La police annonce une troisième arrestation, un homme de 46 ans qui a été détenu à South Belfast suite à une saisie d'un véhicule quelques jours auparavant. Mais encore une fois, on n'a pas de détails supplémentaires sur le véhicule, qu'est-ce qu'il contenait, pourquoi ils l'ont saisi. On est complètement dans le néant. Des images supplémentaires sont révélées aussi ce jour-là, montrant le suspect, déjà identifié sur des vidéos précédentes, se dirigeant vers la porte d'entrée de Nathalie la nuit du drame. Selon les séquences partagées par la police, l'homme pénètre dans le secteur de Silverwood Green à 20h52 avant d'être aperçu quittant les lieux à 21h30. Mais les nouvelles images capturent le suspect traversant le terrain en direction de la porte d'entrée de Nathalie. Malgré la qualité médiocre de la vidéo, un moment clé est immortalisé où le suspect est brièvement éclairé par les feux de recul d'un véhicule. Ces séquences sont cruciales pour aider les détectives à associer le suspect à la résidence de Nathalie, constituant encore une fois une preuve substantielle pour établir une chronologie des événements de cette nuit tragique. Et finalement, après quelques jours de recherche, les enquêteurs qui ont mené la fouille sur le terrain du Silverwood Golf Club, situé à proximité de la maison, en sont ressortis malheureusement sans aucune découverte significative. Le 14 janvier, le nouveau suspect est libéré sous caution en attendant de plus amples investigations. L'homme de 46 ans là, qu'on vous a parlé. Le 18 janvier, plus d'un mois après le meurtre, la police renouvelle son appel à témoins. Le chef inspecteur Neil McGuinness fait état d'une enquête minutieuse, au cours de laquelle des centaines de visites domiciliaires ont été effectuées et plus de 4000 heures de vidéosurveillance saisies, marquant une augmentation de 1000 heures par rapport aux premières annonces. Puis ça, on le voit dans les articles avec au fil du temps, ils ont vraiment augmenté ils ont analysé encore plus de vidéos. Il rappelle également la diffusion antérieure d'images de vidéosurveillance, soulignant que l'identification de l'homme y figurant demeure une priorité.
Oui, parce que jusque-là, ils ne l'ont pas encore identifié.
Non, exact.
Nous sommes le 31 janvier 2023 là, maintenant. Là, donc, on est cette année, en fait.
Oui,
l'année d'enregistrement de cet épisode-là.
C'est fou, hein, ça? Ça me fait toujours drôle quand on travaille sur des cas... Oui. Dans l'année en cours.
C'est assez rare qu'on parle d'un cas en passant la parenthèse qui est aussi frais ou aussi récent. Mais celui-là, on trouvait que justement, la boucle était d'une certaine façon bouclée.
Oui,
donc,
exact,
on pouvait se permettre d'en parler. Mais bon, c'est sûr que c'est très récent. Là. C'est rare les cas qui se déroulent, les enquêtes, qui se bouclent aussi rapidement,
oui,
d'une certaine manière.
Aussi, oui.
Mais bon, on ne vous en dit pas trop. Le 31 janvier 2023 marque un tournant crucial dans l'affaire. Stephen McCullough, l'ex-compagnon de Nathalie, est arrêté à nouveau ce jour-là. Donc, il retourne l'interroger.
Oui.
Bien qu'il ait déjà été appréhendé le 19 décembre, il avait été relâché, la piste menant à lui ayant été écartée à l'époque. Toutefois, l'apparition de nouvelles preuves, notamment des images de vidéosurveillance, a conduit les enquêteurs à réexaminer sa situation, aboutissant à son arrestation. Après son arrestation, Stephen est conduit devant un juge au tribunal de Lisburn pour une audience de mise en détention provisoire. Il est alors révélé, au cours de cette audience, que Stephen avait orchestré une mise en scène la nuit du meurtre. Il avait en effet préenregistré une vidéo de lui jouant au jeu vidéo Grand Theft Auto pendant 6 heures, dans le but de se forger un alibi pour la nuit du 18 décembre, nuit tragique où Nathalie McNally a été sauvagement assassinée chez elle.
Fou.
Donc c'est fou ça. McCullough est dès lors placé en détention provisoire. Dans les premières heures du 2 février, l'inculpation tombe, Stephen McCullough est officiellement accusé du meurtre de Nathalie McNally. Donc, c'est fou. Ils ont, ils ont réussi à trouver, en fait, que j'ai hâte de voir comment,
oui, on va en parler, hein.
Comment ils ont découvert tout ça. Mm-hmm. Mais il aurait, dans le fond, faké son, son alibi. Là. C'est assez, assez troublant.
C'est assez prémédité aussi, hein, quand on y pense par rapport à ça, justement, là, tu sais, d'avoir pré-enregistré une vidéo live, de la diffuser comme alibi, tu fais pas ça sur un coup de tête.
Là. Non, non, c'est clair. C'est, en fait, autant la scène de crime avait l'air d'un crime non prémédité,
oui,
autant là, ça change complètement la game. Là.
Oui, oui, tu vas voir. Mm-hmm.
Mais on va parler un petit peu plus en détail de la fin de soirée du 18 décembre.
Oui.
Donc, cette fameuse nuit tragique, parce que là, les policiers, avec leur recherche, avec l'analyse des vidéos de surveillance et autres, ils ont réussi à faire une genre de chronologie des événements. Là. Donc, revenons au soir du 18 décembre 2022, aux alentours de 19h30. Sur le chemin du retour, un appel réchauffe le cœur de Nathalie. C'est Stephen qui lui propose un rendez-vous chez elle pour discuter. Avec un brin d'optimisme, Nathalie accepte l'invitation, espérant que cette rencontre soit la prélude à un renouveau dans leur relation. Elle nourrit l'espoir que Stephen veuille présenter ses excuses et réparer les liens rompus. Arrivée chez elle, elle accueille Stephen aux alentours de 21h. Toutefois, l'ambiance tourne au vinaigre rapidement. Au lieu de l'échange apaisant qu'elle envisageait, Stephen déverse sur elle un torrent de reproches et en vient même au coup.
Oui.
Il l'accuse de lui avoir menti sur sa grossesse. Il insinue qu'elle cherchait à le piéger en devenant enceinte, je présume.
Oui.
Avec une froideur glaçante, il lui avoue qu'il ne veut ni d'elle ni de l'enfant à venir. Ce qui se profilait donc comme un moment de réconciliation tourne rapidement au cauchemar, révélant une animosité inattendue de la part de Stephen et un côté de lui qu'elle ne semblait pas connaître beaucoup là, à ce moment-là.
Exact.
Ce rendez-vous, initialement envisagé comme un moment de retrouvailles, scelle tragiquement les derniers instants de la vie de Nathalie.
Tellement triste, là, cette soirée-là.
Oui.
Là, on va parler, Émile, des traces numériques, en fait, hein, qui font vraiment partie intégrante de ce cas-ci. Cependant, parallèlement à ce moment, Stephen aurait orchestré un alibi numérique sophistiqué. Le cœur de cette ruse réside dans une diffusion en direct sur sa chaîne YouTube. Et la vidéo, écoutez, là, tous les détails sont importants. Elle s'appelle encore, en fait, The Violent Night Christmas Live Gaming Stream. Puis ce live stream...
Donc la nuit violente, oui. Un stream spécial de Noël.
Oui, exact. Ce live stream de 6 heures, diffusé la nuit du meurtre, était centré autour du jeu Grand Theft Auto Vice City. Stephen a promu cette diffusion sur son compte Twitter à 16 heures le jour fatidique, promettant un flux en direct à partir de 18 heures. Donc, il a tout orchestré aussi là, l'annonce sur les médias sociaux et tout ça, comme si c'était vrai. Toutefois, cette diffusion prétendue en direct recelait une contrainte technique annoncée dès le début. Par hasard, il était impossible d'utiliser le chat en direct, qu'il attribuait à un souci avec son logiciel de streaming, le OBS. Étrange que cette fois-là, ça ne fonctionnait pas. Stephen planifie également des pauses régulières. Il prenait des pauses à chaque heure dans son live pour renforcer la crédibilité, en fait.
Oui, c'est drôle parce que connaissant un peu le système OBS, il me semble que tu peux quand même... tu peux quand même gérer un chat, là.
C'est ça, tu le vois, il baragouine, là. Tout est disponible encore, là,
oui.
Justement.
Oui, je l'ai écouté aussi, son stream. Puis oui, c'est ça, il lance, il joue au jeu, tout ça, puis il explique, tu sais, t'as l'impression... En tout cas, tu le crois pas tout à fait, on dirait. Il est pas très crédible, mais il explique que justement, à cause de son logiciel, les gens peuvent pas chatter en direct, mais en fait, il s'est lancé live sur YouTube, puis il a désactivé le chat, en gros.
Oui,
là.
Exact. Mais,
parce qu'avec ou sans OBS sur YouTube, il y a toujours un chat.
Ben oui, c'est ça que j'ai pas compris. Puis peut-être que quand tu l'utilises, je sais pas si ça condamne l'autre comment dire, plateforme, mais je crois pas. Mais en même temps, je me dis que lorsque les fans ont vu ça à l'époque, ils ne se sont peut-être pas tant posé de questions.
C'est pas du tout.
Après coup, là, on fait toute cette analyse-là, mais
oui, exact.
C'est vrai que ça a l'air pas très crédible, mais je convaincu que sur le coup, les gens n'ont pas tant réagi.
Ben oui, sur le coup, tu ne sais pas qu'il s'apprête à commettre un meurtre. Tu te dis, je ne sais pas pour quelle raison, il est peut-être un peu niaiseux, mais son chat ne fonctionne pas.
Oui, puis ça peut arriver des bugs aussi. Là. Donc, c'est un peu pour ça que... après coup. Mais quand
puis
même.
Ils connaissent pas forcément sa vie privée. Là. Je ne sais pas à quel point ils savent qu'il y a une ex-copine qui est enceinte.
Non, pas du tout. Puis vous allez voir, il était beaucoup moins présent les derniers mois. Selon l'accusation portée par l'avocate Nathalie Pinkerton, ce live stream était en réalité un enregistrement préalable qui a été réalisé du 13 au 14 décembre 2022, donc environ 3-4 jours avant. Là. L'incapacité de Stephen à interagir avec le chat en direct s'explique ainsi. Les déclarations de Pinkerton, l'avocate, mettent en lumière la nature préméditée là, de cet alibi digital. Décrivant le plan, et je la cite comme « froid et clinique ». Elle note également l'usage des termes évocateurs dans le titre de la vidéo et lors de certaines phases du jeu, faisant écho à la violence de la nuit du 18 décembre.
Oui, dans son titre. Mais en même temps, c'est cohérent avec GTA.
Oui,
c'est dur de faire un amalgame.
Exact. Puis il va se défendre un peu là-dessus aussi au départ, que c'est GTA, mais reste que quand on accumule tous les autres détails, c'est particulier. Durant la session, on entend distinctement Stephen prononcer le nom de Nathalie, suivi d'une injure.
OK.
Ce détail, joint à d'autres messages cachés, là, vous allez voir, et des clins d'œil, supposés révélés par l'examen minutieux du matériel informatique, là, ça donne vraiment un nouveau regard, parce que même à un certain moment, il y a un poster d'un film de James Bond qui apparaît, justement parce qu'il est fan de James Bond, le 07 dans son nom de chaîne aussi.
Oui, c'est pour ça.
Démontre ça, puis justement, au moment où il l'a affiché, c'était « No time to kill », puis dans la chronologie, c'est à peu près le moment qu'il a assassiné Nathalie.
OK.
On dirait que ça, c'est vraiment étrange.
Hein? C'est weird.
Comment qu'il y a des trucs qui sont synchronisés. Il y en a même un autre que je vais vous parler sous peu.
Comme s'il laissait passer des messages subliminaux dans son stream qui font aucun sens quand tu l'écoutes sur le coup.
Non, zéro.
Mais qui, après, laisse place à l'interprétation, ouais. Comme on le fait.
Oui, oui, beaucoup. Mais on dirait que sa chronologie, le tout timé, c'est des drôles de hasard. Je sais que ce qu'il a mis, c'est pour démontrer ça, mais c'est la précision dans le temps par rapport au début du live stream versus quand c'est arrivé. C'est ça qui me jette un peu à terre. Le choix du jeu Grand Theft Auto Vice City n'est pas anodin, d'après l'accusation, en raison de son format en solo et de son contenu violent, spécifiquement lors d'une mission secondaire où une femme est tuée. C'est tous ces éléments-là. Stephen met en avant son désir de respecter la promesse faite à ses 35 000 abonnés sur YouTube, maintient que ce live stream était seulement un engagement de longue date. Toutefois, l'absence de diffusion en direct depuis un an et l'irrégularité de son engagement numérique soulèvent des questions. C'est ça, il faisait presque plus rien sur sa chaîne.
C'était rare, là.
Oui.
Il faisait des lives.
Oui, donc c'est ça ajoute encore plus au niveau de la preuve. Madame Pinkerton a révélé qu'au moment où des cris de femme ont été entendus par les voisins de Nathalie le soir du meurtre, Stephen est en train d'exécuter une mission secondaire dans son jeu où il tuait une femme. C'est ça, je te dis encore, c'est tellement bizarre, faisant penser cela pour un accident. 3 heures après le début de la vidéo, aux alentours de 21h, moment où les voisins ont perçu un cri, il a décidé d'entreprendre cette mission secondaire. C'est ça comme je te dis, les alignements des planètes est particulier. Dans la diffusion en direct, Stephen est entendu disant « Je dois tuer cette garce, je dois la descendre.
Okay. »
Et peu après, il exprime « Le temps presse, j'ai failli avoir la garce. » Donc ça, c'est l'avocate qui rapporte ça. Donc le diable est dans les détails et le détail de cette vidéo est glaçant, là, selon elle.
Oui, c'est vrai. Après, je ne sais pas à quel point il a timé sa vidéo de stream qui a quand même des éléments aléatoires quand tu joues à GTA. Avec comment il pouvait savoir que la soirée allait se présenter puis qu'à la minute 45, c'est là qu'il aurait pris le couteau de cuisine. Je pense qu'il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits. Là.
Oui, absolument. Ah oui, ça, je le sais, mais...
Mais c'est troublant après coup.
C'est ça qui est particulier. On dirait que les astres s'étaient alignés. Mm-hmm. D'une certaine façon. Non, puis ils disent pas que c'est timé comme ça, mais ils soulèvent ces éléments-là. Puis on voit quand même qu'il y a de l'amniosité envers Nathalie. Là,
oui, bien sûr.
Par tous ces commentaires. L'accessibilité continue de la vidéo sur YouTube aussi interroge sur la responsabilité des plateformes dans la modération du contenu lié à des activités criminelles, parce qu'elle est encore là, la Moses de vidéo.
Oui, je sais.
Voyons, je m'excuse, non, mais what the fudge, là, YouTube, là, je veux dire, c'est pas la vidéo, même s'il y a un peu de curiosité. J'espère qu'elle n'est pas monétisée. En plus, là, il me semble que ça ajouterait encore plus de manque d'éthique.
De malaise.
Oui, de malaise, oui, exact. Non, ça, là-dessus, je comprends pas.
Non, j'avoue.
Je comprends même pas pourquoi il n'y a pas une injonction même de la Cour de l'Irlande. Je comprends, c'est peut-être des divisions législatives. Je ne sais pas si on a ces droits-là, mais en tout cas, il y a quelque chose, moi, là-dessus, qui me met vraiment mal à l'aise. Puis même, je me demande, tu sais, dans les dirigeants de YouTube, là, ça fait dur, là, d'une certaine façon, je trouve. Là, pour
ben,
ça,
c'est
là,
sûr t'sais. Qu'elle serait probablement réuploadée, mais quand même,
oui,
par principe.
Oui, t'as raison.
Moi, je comprends pas non plus pourquoi la vidéo d'Élise Alarm est encore sur YouTube.
Je veux dire,
à quel point les gens qui regardent ça ont une drôle de perception de la situation, alors que, je veux dire, elle n'est plus recherchée, là, Élise Alarm. Là, le service de police qui l'a mis sur YouTube a plus raison de la mettre là.
Je comprends ce que tu veux dire. Oui, oui, effectivement.
Après, c'est sûr que c'est quelque chose qui va toujours être réuploadé,
oui,
mais quand même sur les chaînes officielles. En tout cas, c'est débattable.
Oui, exact, exact. Mais dans ce cas-ci, puis même, à la limite, ils doivent dire, mais c'est pas, il se passe rien dans la vidéo, dans le sens qu'il est condamnable,
mais quand
tu sais toute l'arrière, non, il n'y a aucune bonne excuse, en fait. C'est ça que je veux dire.
Si on poursuit au niveau des preuves numériques, Seb, on va s'intéresser là, aux recherches Google, en fait, effectuées par Stephen. Stephen aurait recherché les méthodes de mort les plus douloureuses sur les moteurs de recherche quelques semaines avant le présumé meurtre de Nathalie.
Oui.
C'est fucké, ça
oui,
aussi.
Oui, exact. Puis j'aurais aimé ça qu'ils nous donnent les... des fois, ils sortent les requêtes plus précises.
Oui.
Dans ce cas-ci, ils ont juste sommarisé...
les plus douloureuses, oui, tu sais.
Mais oui, encore là, tu vois comment il était fâché.
Il voulait lui faire du mal.
Oui, vraiment. Là, c'est pas juste de vouloir la tuer, c'est de vouloir la tuer avec douleur. Là. Donc,
exact.
Il était vraiment aigri là, du fait qu'elle soit tombée enceinte.
Il y a une autre pièce de vidéosurveillance qui a été cruciale pour l'inculpation de Stephen, bien qu'elle n'ait jamais été révélée au grand public. La cour a appris qu'une vidéo provenant d'un bus TransLink montrait un individu correspondant à la description donnée dans les précédentes vidéosurveillance. L'individu capturé montant dans un bus à Kingsway, Dunmurry, après avoir marché jusqu'à l'arrêt, portait une capuche abaissée sur les yeux et un couvre-visage remonté très haut sur le nez. Grâce à la haute qualité des vidéosurveillance maintenant là, dans les bus
oui.
TransLink, des images nettes de cet homme interagissant avec le chauffeur de bus ont été obtenues. Il portait un grand sac vert, le Bag for Life d'Asda, un sac très distinctif. À l'intérieur de ce sac, il y avait un autre sac noir que la police associe au sac à dos porté par le suspect sur les images prises à Silverwood Green, là, près du domicile de Nathalie.
Oui, parce qu'ils n'ont jamais diffusé les images à l'intérieur de l'autobus. Ils les ont jamais diffusées. Mais c'est celles qui contiennent le plus de détails. Parce que les autres, vous pouvez les trouver sur Internet. Mais la qualité, il y en a une, c'est une caméra de rue. On le sait, puis c'était sombre, puis l'autre, c'est une caméra de maison. Là. Donc, encore une fois, sombre, on ne voyait pas bien. Mais celle-là, encore une fois, ils ont décidé de... Sûrement parce qu'on voyait trop de détails, là, selon moi, pour identifier le suspect. Mais...
En payant son trajet, l'individu laisse tomber de la monnaie et retire un gant noir, révélant un gant jaune en dessous. L'importance du gant jaune réside dans le fait qu'une empreinte de gant trouvée dans le sang de Nathalie correspond à un gant de type Marigold. Durant les 35 minutes du trajet vers Lurgan, l'individu reste impassible, ajustant occasionnellement son couvre-visage. Il prend des mesures prudentes pour dissimuler son visage, comme lorsqu'il boit furtivement une bouteille de Coca-Cola en soulevant le bas de son masque, un geste maladroit. Les caméras de surveillance le capturent plus tard à divers endroits à Lurgan, se dirigeant vers Silverwood Green avec une démarche et une allure distinctives.
Oui, parce qu'on le sait, hein, je ne sais pas si tu te rappelles, on a tous une signature
de notre démarche.
Dans les logiciels d'intelligence artificielle, c'est ce qui démontrait. Chaque humain a sa propre démarche. Il y a des petites nuances.
Oui, c'est fascinant ça.
Oui, ça aussi.
La police pense que bien que l'individu ait changé de vêtements après avoir quitté la maison de Mme McNally, sa démarche et sa carrure sont restées les mêmes. L'individu prend ensuite un taxi près du bar Fat Joe's à Lurgan. Interrogé, le chauffeur de taxi a conduit les détectives à la zone où habite McCullough, corroborée par l'analyse GPS qui a montré que le taxi a atteint l'adresse de l'accusé à 23h13 précisément. L'activité mobile de l'accusé n'a révélé aucune activité entre 18h le 18 décembre et 23h16 lorsqu'il a été déverrouillé. Donc, tout ce temps-là, il était verrouillé. Bien qu'il n'ait pas été possible de déterminer la localisation du téléphone, ce vide d'activité de plus de 5 heures est jugé significatif. Ben oui, ils font toujours ça. Oui. Ils désactivent leur téléphone, mais ils le font jamais autrement. Non, donc, c'est louche quand
ben
tu le
oui,
fais.
Ben oui, exact. Puis là, justement, il remet. Non, c'est ça. C'est,
ben oui.
C'est une drôle de... Comment dire? Tu comprends le système, mais on dirait que tu le comprends à moitié. Là.
C'est ça. La reprise de l'activité mobile 3 minutes après l'arrivée présumée de l'individu à cette adresse renforce les preuves accablantes contre lui.
On va vous parler un petit peu du procès. La menace d'une réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle plane sur Stephen. Son procès connaît cependant des reports successifs. Initialement, prévu pour le 24 février 2023, l'audience est sans cesse repoussée, laissant la communauté dans l'attente de réponses. Le 24 mars 2023, l'annonce d'un nouveau report du procès de plusieurs mois amplifie cette attente et l'incertitude autour de l'affaire. Toutefois, le 21 avril, une lueur d'espoir apparaît avec l'annonce d'un nouvel examen du dossier, durant lequel la date de disponibilité du dossier complet devrait être communiquée. Stephen entreprend alors une démarche judiciaire pour obtenir l'anonymat, arguant que l'identification publique pourrait compromettre sa sécurité et aussi l'impartialité de son futur procès. Mais le jour même, le juge rejette la demande, affirmant que le droit de Stephen à un procès équitable peut être préservé sans accorder d'anonymat. Puis ça, je suis assez d'accord là, dans ce cas-ci. Je ne vois pas qu'est-ce que ça change en tant que tel. Là. Le 21 avril, le dossier est classé comme prioritaire, un juge fixant une date provisoire pour le procès le 6 novembre 2023. Mais là, écoutez ça. Là.
C'est bientôt ce moment où on enregistre cet épisode.
Exact, mais tu vas voir, ça bouge encore. L'anticipation atteint son apogée. Le 6 octobre, ça, c'est sorti il y a à peine une semaine là, environ, là, dans les temps qu'on enregistre. Là. Lorsqu'un un juge ordonne que l'affaire contre Stephen soit présentée devant la Crown Court avant Noël, donc Noël cette année, laissant envisager une possibilité de début de procès dans les mois à suivre. Toutefois, un autre virement se produit et le procès est à nouveau reporté, cette fois au 16 juin 2024. Sans plus de précision sur la nature de cette future audience. Je ne sais pas pourquoi ça a fait ça. Je me suis demandé s'il y a une complexité dans les preuves. As-tu besoin d'aller chercher autre chose? Ils ont beaucoup de traces. Ils n'ont jamais parlé d'ADN aussi, ça, honnêtement. J'ai jamais rien vu. Je peux pas croire qu'il n'y en a pas, mais il s'est très, très bien protégé. Ça, il disait là, au niveau forensique, là, au niveau de avec les doubles gants, il s'est changé de linge. Et tout ça, là. Donc, même le fait de ne pas avoir amené sa propre arme, je me demande si ça ne fait pas aussi partie des chances d'avoir moins de... De le coincer par l'ADN ou je ne le sais pas trop. Là. T'sais, on dirait parce qu'il aurait peut-être manipulé préalablement. Je ne sais pas, ça n'a peut-être même pas de lien, mais ta question était valide tantôt parce que quand tu te questionnais à savoir ce qu'il avait déjà amené l'arme, t'sais, un arme sur lui, pourtant, on le voit, là, tout était prémédité. Donc, je ne sais pas si... je ne sais pas jusqu'à quel point il voulait la tuer ou s'il voulait la tuer en utilisant un couteau. Là, peut-être qu'il...
Ça va être curieux de suivre ce procès-là parce que est-ce que vraiment ils vont passer, je ne sais pas comment ça se passe en Irlande, mais est-ce qu'ils vont passer le cap du doute raisonnable? Ah, parce que là, ils ont des images de vidéos de surveillance, mais ils ont sa signature de démarche. En fait, je ne sais pas à quel point ils ont de l'ADN, ça on ne le sait pas encore. C'est sûr qu'il va y avoir plus de révélations au procès. Il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'on va peut-être apprendre un peu plus tard. J'ai un chat dans la gorge ce soir. Oui. Mais Donc, c'est une bonne question, en fait, à savoir s'ils ont juste du circonstanciel, parce que en même temps, ils couvraient son visage. Son stream, oui, ils savent que, comment dire, il était préenregistré puis tout ça, mais est-ce qu'ils ont autre chose? T'sais, est-ce que les... je présume qu'ils ont fait, ils ont regardé les métadonnées, ils savent que ça a été enregistré au préalable, mais le stream, encore une fois, c'est circonstanciel, tu sais, c'est pas une preuve hors de tout doute.
Non,
t'sais.
non, absolument. Ils ont la trace du gant qui. Je sais qu'ils ont trouvé, le téléphone à Nathalie et le couteau quand même pas loin de chez lui. On en a pas trop parlé là, dans les preuves. Mais tu sais, ça aussi, ça reste circonstanciel. T'sais.
Puis il n'avait pas changé son alibi à un moment donné, il me semble. Il avait dit par la suite, oui, j'étais pas live sur mon stream, mais j'étais quand même chez moi à regarder la télé.
Ah oui, t'as raison. Oui, il disait qu'il y avait trop... Oui, c'est vrai, c'est vrai, tu fais bien de l'ajouter. Oui, il disait qu'il y avait trop bu d'alcool ce soir-là. Oui,
quand ils l'ont confronté avec son histoire me semble, la première fois pour l'histoire du live stream faké, ben c'est ça. Ça veut pas dire qu'il était en train de tuer quelqu'un. Tu sais, je veux dire, d'un point de vue de preuve...
Non.
T'sais, on s'en doute bien, là, mais c'est ça, lui avait dit à l'époque, oui, c'est vrai, j'ai pas streamé pour vrai, mais bon, j'étais juste chez nous.
Ouais, j'avais trop bu d'alcool.
J'étais passed out sur le divan ou un truc de même.
Mais tu sais, c'est bizarre, ça aussi, c'est pas quelque chose que tu prévois. Puis on dit, ils ont quand même les traces GPS du taxi qui l'a identifié, qui l'a ramené chez lui, qui l'a pris au bar pas loin. Il y a quand même, ça reste quand même tout du circonstanciel, mais quand tu les additionnes tous ensemble, puis je me demande, tu sais, justement, quand il demandait l'anonymat, si c'est sûr que, étant donné que le cas est déjà médiatisé, si c'est devant jury, j'imagine, dans ce contexte-là, mais on, comme tout jury, on s'attend à ce qu'il reste impartial selon les preuves qui sont présentées. Là. J'essaie de voir si ça pouvait vraiment influencer, mais on dirait que je vois, comme le juge, là, je vois pas tant d'injustice par rapport à l'anonymat. Donc, ça fait le tour de la chronologie, mon cher.
Ben oui, toute une histoire troublante. Je suis curieux de savoir, vous, les distordus, qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire-là? Est-ce que vous trouvez, selon vous, que le cas de Steven surpasse le doute raisonnable? Est-ce que vous pensez qu'il y a peut-être des chances de s'en sortir à son procès cette année ou plutôt en 2024 ou quand ça risque d'être repoussé encore?
Oui, ouais.
On veut savoir ce que vous en pensez ou qu'est-ce que vous en pensez en gros du phénomène des vidéos live? Comment ça a changé le paysage du crime à quelque part? On va en parler un peu dans l'after show parce que bien que le meurtre commis par Steven n'était pas vraiment live en direct, on va parler de d'autres histoires où là, vraiment, le meurtre a été diffusé live. Ça, c'est quelque chose. On se rappelle de l'histoire de Bianca Devins, dont on avait parlé, où le meurtrier a filmé son cadavre sur Instagram, sur Discord et autres.
Oui.
C'était assez troublant dans une saison précédente. On en a parlé en long et en large. Mais là, dans l'after show, disponible sur Patreon, on va parler du premier meurtre, en fait, qui a été diffusé en direct sur le web. C'est un peu creepy, mais ça fait partie des annales, des histoires étranges de la numérique. Donc, Distorsion est là pour en parler. Donc, on vous remercie, les Distordus. Seb, je te remercie.
Oui, merci à toi.
Aussi de ta participation. On remercie notre glorieux monteur André Beaupré qui corrige nos petits cafouillages linguistiques d'une main de maître.
Oui.
Aussi cette année, on en profite pour remercier Arby ainsi que qui collabore à la musique.
C'est vrai, oui.
Oui, avec moi-même. Donc, encore une fois, on compose des nouvelles musiques pour vous tout le long de cette saison-ci. J'espère que vous apprécierez. Et vous savez où nous trouver si vous voulez nous parler, nous poser des questions ou autres sur les réseaux sociaux. On est là sur Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, maintenant X, et on est sur Facebook aussi. Rejoignez aussi notre groupe de discussion privé sur Facebook. C'est une belle façon de rencontrer d'autres distordus comme vous. Et on ne peut terminer cet épisode sans remercier nos chers membres Patreon. Seb, je te laisse commencer.
Oui, je fais un gros high five à Valérie M, la maquilleuse gaffeuse, Naomi T, Soraya F et Amélie D.
Un gros merci à Étienne L.E., à David T., à Sophie B., je pense que je sais tu es qui, à Marilyn B., ainsi qu'à Roxane.
Je poursuis un gros câlin à Anne-Catherine F., Audrey B., Maud F., le ou la mystérieuse Dani et Michel Le M.
Un gros câlin à Sonia, à Alex D, à Sylvie O, à Frédéric R et à Enora D.
Je poursuis, merci à vous, actionnaires de Distorsion, avec Folissem, Maxime G, Sean, Jessica G et Tommy C.
On ne pourrait faire ce show sans l'aide inconditionnelle de Loupa, de Nicolas L, de Marie-Ève F, de Nathalie M et de Alexandra LH.
Un gros merci à Héloïse A, Lisa M, Amélie R, Patricia R et Amélie S.
Je donne une belle tape dans la main de Alice VB, de Christina S, K, de Gabriel R, de Véronique P et Dark Winey.
Je poursuis l'amour à Stéphanie PH, à Aude G, à Aurore N, Jessica B et à Alex H.
Et pour terminer, un tsunami de love à Orny Mandrake, à Leslie, à Iki, à Megan D et à Catherine B.
Merci beaucoup à vous.
Et pour terminer, aurais-tu un mot de la fin pour nous, Seb?
Oh oui. Malgré les apparences, dorénavant, chaque fois que vous voyez quelqu'un live en direct, questionnez-vous si c'est un alibi numérique.
Oh oui.
Pas le choix.